La ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille.
Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité.
Apothem, an old aphorism that I want everybody to remember. If you're not paying for the product, you are the product.
Donc, bienvenue sur 50A Galaxy, le podcast. Je suis ce soir avec Jérôme Devries. On va parler parcours utilisateur. Donc, bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Alors, l'idée en fait de faire ces petites interviews nous est venue de notre programme d'inbound marketing. Donc, on va un petit peu vous expliquer la genèse. Donc, dans ce programme de inbound marketing, on doit faire des contenus. Et donc, des contenus pour se positionner dans les moteurs de recherche. On a vu qu'on était positionné sur parcours utilisateur, mais en deuxième page. Donc, j'ai proposé à Jérôme de faire un podcast pour refaire remonter en fait ce mot-clé en première page de Google. Donc c'est on fait un peu d'une pierre deux coups, hein. On va vous parler en fait d'utilisateur et aussi on fait du contenu pour notre site pour remonter dans les résultats. Donc je vais Jérôme, je vais vous faire une petite présentation de Jérôme, hein. Jérôme qui est associé de 50A, qui est un ingénieur. Il a fait une partie de son parcours aux États-Unis et au Canada. Il est spécialiste de design industriel. Il s'occupe chez 50A en fait, de tous les aspects de consulting et de transformation numérique. Il a initié chez nous tout ce qu'on peut appeler le co-design. Donc le co-design, c'est faire ensemble, c'est concevoir ensemble des prototypes, des projets. Donc, c'est notre expert en fait en parcours utilisateur, en UX, hein, comme dit, en expérience utilisateur. Donc, ce soir, je vais lui poser quelques questions sur ce sujet. Donc, pour commencer, Jérôme, c'est quoi un utilisateur ?
Merci Nicolas pour cette question. Écoute, l'utilisateur, on pense que finalement, c'est juste le client final, mais pas que. Pas que. On a trop tendance à se dire, c'est une cible. Alors nous, on n'utilise pas trop ce terme de cible parce que c'est la chose sur laquelle on tire. On n'a surtout pas envie de tuer nos utilisateurs ou nos rois. Donc, on parle d'utilisateur, mais c'est pas que le client final, c'est également le partenaire. Ça peut être un fournisseur, ça peut être un prescripteur. Donc la notion d'utilisateur est à voir au sens large. Et c'est pas que le client final auquel on pense.
C'est pour ça, moi je me pose une question, je dis mais pourquoi, c'est quoi la différence entre un parcours client et un parcours utilisateur ?
Alors, tu fais bien de te poser la question, Nicolas, parce que c'est vrai que soyons précis. Un parcours client, c'est quelque part tout le processus qu'il va y avoir entre les utilisateurs et une marque, une entreprise, un produit, un service. Un parcours utilisateur, c'est davantage un terme d'ergonomie et c'est plus par exemple sur un site e-commerce, vous voyez les différentes étapes entre le produit que vous voulez commander et la validation de votre panier. Il y a différentes étapes, donc le parcours utilisateur s'intéresse plus aux étapes en termes d'ergonomie d'interface.
D'accord.
Alors que le parcours client est plus comment on va représenter l'expérience client.
Moi je pensais que c'était juste pour dire au client qu'on le prenait maintenant plus pour un utilisateur et pas comme un consommateur. J'avais cette vision un peu de changement sociétal.
Alors,
du mass market vers un marketing plus personnalisé, plus humain.
Alors tu fais bien effectivement de faire le distinguo, mais au final un client est un utilisateur et un utilisateur peut devenir client.
Ah, je préfère ça, sinon ça fait un petit peu greenwashing, enfin ou marketing washing avec ces termes. Donc Jérôme, je me pose aussi cette question, pourquoi du coup on appelle toute cette activité design de service ? C'est parce que pour avoir une définition assez, assez simple, parce que pour moi le design c'est du design d'objets, le service c'est du service. Et finalement, je me suis souvent posé la question de cette définition du design de service.
Je vais reprendre le terme que tu as utilisé en introduction, effectivement, entre des ingénieurs, tu parlais d'ingénieurs, et de plus en plus aujourd'hui, on s'aperçoit que les designers prennent un peu le pas sur les ingénieurs. À l'époque, un ingénieur fabriquait un produit. Il le concevait, il travaillait avec le marketing pour faire quelque chose d'attractif, il travaillait avec le commercial pour pouvoir le vendre, il travaillait avec la logistique pour le diffuser. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est plus des produits qu'on consomme, mais c'est des services, des expériences. Il n'y a qu'à voir autour de nous. On ne loue plus une chambre d'hôtel, on loue sur Airbnb un espace où on va vouloir habiter. Donc tout est devenu service, et à ce titre-là, les méthodes qui servaient à fabriquer et concevoir les produits ne suffisent plus. Et on parle aujourd'hui de service, donc design de service. Un autre bon exemple, vous allez aujourd'hui sur le site de la SNCF, eh bien on ne voit plus de train. La SNCF, c'est quand même notre premier transporteur ferroviaire en France. On ne voit plus de train, par contre on s'aperçoit qu'on peut louer une voiture, on s'aperçoit qu'on peut réserver une chambre d'hôtel, on s'aperçoit qu'on peut réserver un billet de bus. Donc on s'aperçoit bien que finalement, tout est service aujourd'hui plutôt que produit.
Donc maintenant, on peut dire, voilà, on ne fait plus un site internet, mais on crée une expérience digitale.
Absolument, absolument, c'est le bon mot, Nicolas.
D'accord. Donc, et chez Cinquanta, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment se passent ces parcours utilisateurs? C'est sous forme d'atelier, c'est sous forme de matrice?
Alors, c'est les deux. Chez Cinquanta, on a un atelier qui s'appelle Parcours utilisateur, qu'on a eu l'occasion d'expérimenter et de faire avec de nombreux clients. Je crois qu'on en est à notre 50e parcours utilisateur. On l'a fait notamment beaucoup pour le secteur de la construction immobilière. On sait que construire une maison, c'est environ 26 étapes. Entre le moment donné où on se décide de se construire sa maison, d'élaborer les plans, de faire les différents devis, de contracter avec la société qui va réaliser la maison, jusqu'à la livraison des clés. Donc on a beaucoup expérimenté le parcours utilisateur pour le secteur immobilier. Alors en quoi ça consiste? Quand vous venez chez Cinquanta, effectivement, vous nous commandez un parcours utilisateur. Donc c'est un atelier qui se fait généralement en une demi-journée. Et il permet quoi? Il permet finalement de faire quatre étapes. La première, c'est, on parlait d'utilisateurs, il faut les connaître un peu, ces utilisateurs. Donc on fait des personae. Ça, c'est la première des choses. Et on rentre effectivement comme si on était un client, comme si on était un utilisateur. On imagine ses besoins, ses motivations, ses freins, les arguments qui vont pouvoir l'aider à déclencher sa décision, etc. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on va essayer d'identifier tous les points de contact qu'on a avec cet utilisateur et le service qu'on propose, en l'occurrence, construire sa maison. Ces points de contact, ils sont nombreux, hein. Ça peut être le bouche à oreille, ça peut être les réseaux sociaux, le site internet, le téléphone, et j'en passe. Une fois qu'on a déterminé ces points de contact, une fois qu'on a déterminé les étapes clés, on va essayer de tracer ce parcours utilisateur, de le dessiner, de le schématiser. À quoi il ressemble? C'est des montagnes russes. C'est effectivement, il y a des hauts, il y a des bas. Et tous ces hauts et ces bas, on va les déterminer ensemble. Les bas, c'est plutôt des points de blocage. Les points de blocage, c'est difficile de passer à l'étape suivante. Forcément, on a reçu un devis qui était trois fois plus cher que ce qu'on pensait pour acheter sa maison. On est déçu. A contrario, on a aussi des points de rebond. Et les points de rebond vont permettre de passer beaucoup plus rapidement aux étapes suivantes, comme par exemple le choix des fournitures dans sa future maison. C'est toujours un point de rebond qui est qualifié par les utilisateurs. Ça, c'est la deuxième, troisième étape de dessiner le parcours. Et enfin, la quatrième étape de cet atelier, c'est d'essayer de déterminer l'émotion de ces utilisateurs à chacune des étapes, de la décrire. Donc, dans l'exemple de la maison, ça peut être le futur habitant, mais ça peut être aussi le commercial qui vous a vendu le projet, ça peut être l'architecte technique qui va vous aider à réaliser votre future maison, jusqu'au service après-vente. Une fois que les clés seront livrées, vous aurez affaire quand même aussi à quelqu'un qui fait partie du parcours utilisateur. Donc voilà, pour résumer, en une demi-journée, vous pouvez faire votre parcours utilisateur avec nous.
Parfait, il manque plus que le call to action. Donc, en fait, il me semble aussi que tu as inventé un jeu aussi, hein, parce que nous, on a fait jouer en fait des clients à notre jeu du parcours utilisateur. Et c'est là où je trouve que c'est encore plus intéressant, c'est que le parcours utilisateur finalement participe aussi à faire de la conduite de changement dans l'entreprise, ou même ce qu'on pourrait appeler de la transformation numérique.
Oui, je te rejoins parce que je garde toujours cet exemple de constructeur de maison. Un utilisateur, il va avoir affaire effectivement à un commercial, à quelqu'un qui gère plutôt l'administratif autour de son projet de maison. Il va avoir aussi affaire à quelqu'un de technique qui va lui construire les murs, assembler les différentes fournitures, etc. Donc, le jeu du parcours client, généralement on fait un jeu de loi, celui de représentation qui marche très bien. Eh bien, on met autour de la table des futurs habitants, on met autour de la table des commerciaux, des architectes techniques, et puis tous ceux qui vont s'organiser de l'administratif, et on se rend compte que finalement, ils apprennent plein de choses que le petit copain, le collègue faisait, qu'ils ne savaient pas. Et donc tout est histoire de transition, de transformation, de qu'est-ce qu'on dit à son collègue pour qu'effectivement le parcours soit plus fluide au bénéfice de notre utilisateur.
J'aime aussi toujours ce que... Dernière question qui peut paraître un peu amusante, quoi, mais c'est si un utilisateur il sort du parcours, qu'est-ce qu'on doit faire de lui ? On le punit ou on lui donne un bonus ?
Alors, on donne toujours une deuxième chance, voire une troisième chance. De sortir d'un parcours, tout le monde en a fait l'expérience. Tout le monde s'est dit, peut-être avec un fournisseur d'électricité ou un livreur qui n'arrive pas à l'heure, en disant « bon, ben, si c'est comme ça, je résilie ». Donc c'est plutôt l'utilisateur qui va se sortir lui-même du parcours. Bien évidemment, nous n'avons pas intérêt à le sortir. Donc c'est l'utilisateur qui se sort. Donc je transformerai ta question, Nicolas, plutôt « comment récupérer quelqu'un qui est sorti ?» Parce que c'est naturel de sortir.
Oui, c'était dans ce sens aussi, de la créativité en fait qu'on peut imaginer chez un utilisateur qui ne suivrait pas forcément le parcours qu'on lui a imaginé. Donc bon, on voit bien qu'on est dans un monde où tout se digitalise. D'ailleurs, ce mot digital ne veut pas dire grand-chose puisque c'est avec les doigts. Tout devient numérique et que effectivement ça a beaucoup d'impact en fait cette transformation numérique dans les entreprises, que ce soit au point de vue humain, au point de vue aussi des process utilisés. Donc comment ce parcours utilisateur évolue avec cette transformation digitale? C'est-à-dire qu'on est de plus en plus, on a de plus en plus de supports digitaux, on a de plus en plus de données. Donc, ce parcours utilisateur qui devait être assez simple dans un monde sans Internet, que devient-il dans un monde où peut-être que en permanence on est enregistré par son téléphone ou par sa Google Home ou des choses comme ça?
Alors, c'est une tendance forte pendant très longtemps, le marketing a eu l'impression d'avoir la science infuse et de considérer ses clients et ses utilisateurs comme finalement des consommateurs qui n'y connaissaient pas grand-chose. On se fiait aux études, on se fiait aux sociotypes et on se disait, finalement, on va fourguer si je puis utiliser ce terme, mon produit, et le consommateur va bien l'acheter. Les temps ont bien changé. Les réseaux sociaux ont participé justement à cette démocratie. Donc aujourd'hui, moi je dis souvent, on ne lui fait plus à l'envers à l'utilisateur. Et les techniques à la papa du marketing ne marchent plus parce que l'utilisateur en connaît presque autant que notre cher directeur marketing. Donc ce qui change, c'est qu'effectivement, la science infuse qu'on pensait avoir en découpant un processus d'achat ou de service en X étapes, on s'aperçoit que l'utilisateur qui adore finalement être satisfait au plus vite va chanter ses étapes, va effectivement essayer de trouver la parade. Et la plupart du temps, on les oublie des projets, ces utilisateurs. On ferait bien de les intégrer dans ces réunions et ça permettrait justement d'adapter ces parcours utilisateurs en profitant de la connaissance grandissante de nos utilisateurs.
Mais moi, ma question est sur toute cette notion de big data, de open data qu'on récupère sur les intelligences artificielles, sur les choses. Comment finalement ça impacte ces parcours utilisateurs, dans le sens où ils ont peut-être une autre dimension. Enfin, c'est une question que je me pose. Ils sont peut-être plus 2D mais 3D. Donc il y a cette partie-là, donc cette question-là de voilà, comment ça augmente le parcours utilisateur d'un côté. Et ma deuxième question serait aussi sur finalement, le parcours utilisateur est très humain, puisqu'on remet l'humain au cœur de au cœur du système et au cœur de la technologie. Mais dans ce monde-là où finalement il y a beaucoup plus de big data, beaucoup plus de IA, de plateformisation, de choses comme ça, ben on a moins en moins d'humains, donc peut-être aussi de moins en moins de parcours utilisateurs. Enfin, c'est deux parcours utilisateurs augmentés et l'humain face au big data dans le parcours utilisateur.
Alors, j'étais très clair. Très clair, et je vais te répondre par finalement deux chiffres. Sur la première question, on se dit qu'effectivement, toutes ces données, etc., on parle beaucoup de protection des données, de RGPD. Il faut savoir que 83% des Français sont prêts à partager leurs données avec une entreprise afin d'accéder à une expérience client plus personnalisée. Donc, jouons ce jeu de la donnée. Ouvrons-la de manière transparente, de manière honnête, de manière à faire en sorte que ces 83%, ils sont prêts à la donner, s'ils y voient un intérêt.
Je vais me faire l'avocat du diable hein, quand même.
Ah bah oui.
Parce que sur notre podcast 50 à Galaxy, on a souvent parlé de souveraineté numérique, de gouvernance de cette donnée, quoi. Et effectivement, et c'est ça qui est intéressant de confronter en fait les points de vue où tu en as. On peut se dire aussi que finalement l'utilisateur, pour de la simplicité d'usage, a vendu toutes ses données en fait à des plateformes. Et c'est vrai, de toute façon on le voit. Hein, tous les utilisateurs finalement de Gmail, on en discutait tout à l'heure, on se disent bon bah c'est pas grave finalement que on parle de podcast dans la journée par mail et que
je reçois sur mon téléphone
une newsletter
parlant de
podcast. Voilà, donc ce qui est la différence entre toi et moi qui est ma propre messagerie où finalement non j'ai pas envie de, je fais pas partie de ces 83%, mais je pense que ces 83% font un mauvais choix finalement en partageant sans conscience, parce qu'on peut partager avec conscience et sans conscience ces données, et donc voilà, c'était pour sur ce débat.
C'est très bien,
c'est un grand débat mais effectivement, et moi plus sur le côté de ces parcours utilisateurs, c'est sur la big data, c'est que j'imagine qu'avant on pouvait imaginer, enfin on pouvait concevoir avec son cerveau, mais maintenant la big data, l'intelligence artificielle, transformer cette donne-là. Et en fait, on va plutôt faire confiance aux résultats fournis par la big data ou l'intelligence artificielle de versus sa conception de son cerveau. Et ça, comment finalement, ce que je veux dire, enfin, ce que j'imagine ou je sais pas, c'est pour ça qu'on en discute ce soir, quoi. C'est est-ce qu'on peut automatiser des parcours utilisateurs avec la big data?
Oui, si on intègre nos utilisateurs, parce que c'est 83%, effectivement, pour y revenir, on les invite à faire le parcours utilisateur avec nous, avec nos clients 50A. Au contraire, il y a souvent une réticence des clients en se disant « Non, mais finalement, on n'a pas besoin des utilisateurs, on va réfléchir tout seul. » Je pense que c'est une erreur. Et à l'heure du big data, à l'heure où effectivement toutes ces données, il faut savoir les représenter, d'où aussi chez 50A notre expertise qu'on appelle visual thinking, qui est de représenter de manière très simple, illustrer des processus complexes et le parcours utilisateur en est un. Donc sur ce point, big data, oui. Tant que les utilisateurs sont effectivement au sein de la réflexion commune et pour la représentation, les outils graphiques permettent effectivement d'y voir plus clair dans un monde où les données ont tout submergé.
Complètement d'accord. Effectivement, au lieu d'être prisonnier de ces données personnelles et de donner toutes les décisions à une big data ou une intelligence, oui, se servir pour être augmenté et prendre des décisions. Et prendre des décisions plus sages. Une dernière question, parce que finalement, quand on est dans le parcours utilisateur, on est dans l'expérience utilisateur et on est dans l'UX. J'ai lu des dernières tendances de l'UX les dernières tendances sont à que cette expérience utilisateur est rentrée dans l'entreprise et est devenue fait partie des usages au quotidien. Donc comment tu vois en fait cette activité en fait évoluer en termes de prestations ou même en termes de d'expertise?
Alors moi, je dis souvent, il faut sortir effectivement juste du parcours utilisateur. C'est un exercice qu'on fait ensemble qui permet de trouver plein de nouvelles pistes d'innovation. Mais ce n'est pas juste autour de la table. Il faut sortir. Je vais prendre un petit exemple sur un parcours utilisateur d'une banque. On travaillait sur l'accessibilité du distributeur automatique. On a fait un parcours utilisateur, mais on a été un peu au-delà de ça. On a emmené toute l'équipe client dans la rue, on les a mis dans des fauteuils roulants et on leur a demandé d'aller retirer de l'argent au distributeur automatique. Quelle n'a pas été notre surprise d'effectivement de se dire « Ah, c'est difficile, le fauteuil est trop haut, j'arrive pas à rentrer la carte, etc. etc. » Des choses qu'on avait écrite sur le papier lors du parcours utilisateur et qu'on a vécu ensemble dans la vie réelle. Donc oui, le parcours utilisateur, le futur, c'est aussi créer des environnements physiques où on va pouvoir expérimenter ces nouveaux services.
C'est génial, du coworking utilisateur, quoi.
Absolument.
Bon, bah merci Jérôme.
Merci Nicolas.
On a bien avancé. On va même tout retranscrire en fait, toute cette voix sur du texte pour nourrir nos chers moteurs de recherche.
Et vive le mot-clé parcours utilisateur.
Bon, merci à vous.
Merci
et à
vous.
Très bientôt pour un nouvel épisode.